La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Jacques Maritain ou la passion des affaires temporelles, deuxième épisode. Bonjour. Si Humanisme intégral a été une œuvre majeure en 1936, qui a changé beaucoup dans la réception qu'on a pu avoir de Jacques Maritain, à tel point que certains ont considéré qu'il n'était plus en état de grâce, qu'il fallait qu'il arrête d'écrire, que ses publications avant 36 étaient bonnes, mais après 36, litigieuses. En 1956, il y aura à nouveau un courant, on va dire, contre lui à Rome. C'est cette fracture de l'année 36, son engagement dans la guerre d'Espagne, Humanisme intégral, qui lui ont valu finalement un revirement de la part des clercs, des théologiens, des thomistes, disons-le aussi. Et un amalgame un peu rapide entre un Maritain qui serait passé à gauche après avoir été de droite, comme s'il avait appartenu à l'Action française, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, revenons sur l'intérieur, c'est-à-dire le fil rouge de Humanisme intégral, les lignes de conduite, quelles sont-elles? Opposer la sanctification du profane au couple sacré-saint, sacré-profane, pardon, sacré, le sacré pour Maritain est une catégorie antique, païenne, que le christianisme n'a pas écarté, pas du tout, mais qu'il a réintégré, et l'accent tonique doit être mis sur la sainteté. Pas sur le sacré. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur une troisième ligne après celle de l'universalité qui a été la fin de l'émission précédente. C'est celle de la révolution sociale. C'est un mot de Peggy. Peggy a beaucoup marqué Jacques Maritain. La révolution sociale sera morale ou elle ne sera pas. Voilà. Ce fameux mot de Peggy, Maritain nous en donne un commentaire. On a de la chance, c'est un commentaire qui appartient à Humanisme intégral et que je vous soumets. Ce mot célèbre de Charles Peggy peut être entendu à contresens. Il ne signifie pas « Avant de transformer le régime social, il faut d'abord que tous les hommes aient été convertis à la vertu. Ainsi compris, il ne serait qu'un prétexte pharisaïque pour éluder tout effort de transformation sociale. » Les révolutions sont l'œuvre d'un groupe d'hommes, relativement peu nombreux, qui leur consacrent toutes leurs forces. C'est à ces hommes-là que le mot de Peggy s'adresse. Il signifie « Vous ne pouvez transformer le régime social du monde moderne qu'en provoquant, en même temps et d'abord en vous-même, une rénovation de la vie spirituelle et de la vie morale. En creusant jusqu'aux fondements spirituels et moraux de la vie humaine, en renouvelant les idées morales qui président à la vie du groupe social comme tel, et en éveillant dans les profondeurs de celui-ci un élan nouveau. Autrement dit, l'action, la révolution, est subordonnée à la contemplation. Pour Maritain, l'action vient toujours d'une surabondance de contemplation. Il a ici identifié vie morale et vie spirituelle. C'est plutôt un étagement, comme si la vie spirituelle est encore plus profonde, c'est la vie mystique. Donc, on pourrait dire qu'il y a un étagement, comme la fusée Ariane qui a plusieurs étages, vous avez la vie mystique, l'union au Christ. C'est ce que doit rechercher le chrétien. Ce qui donne la vie spirituelle, ce qui donne cette vie contemplative, puis la vie morale, et l'action. Il y a vraiment cette idée d'aller vers l'action de manière d'une surabondance de l'intériorité, c'est-à-dire de la vie mystique. L'autre idée, qui est un commentaire de cette phrase de Peggy, la révolution sociale sera morale ou elle ne sera pas, c'est de réfléchir sur l'héroïsme. Qu'est-ce que c'est que l'héroïsme chrétien? Maritain l'appelle l'héroïsme de l'amour. Une fois reconnu, écrit Maritain, toujours dans Humanisme intégral, par la conscience chrétienne, le domaine propre du social, avec ses réalités, ses techniques, son ontologie caractéristique, la sainteté chrétienne n'aura-t-elle pas à travailler là aussi où travaille l'héroïsme particulier de la faucille et du marteau, ou du faisceau, ou de la croix gammée? Vous avez identifié les trois, totalitarisme et fascisme, Fauci et Marteau, communisme, Fesseau, Croix gammée, Mussolini, Hitler. N'est-il pas temps que du ciel du sacré, que 4 siècles de style baroque lui avaient réservé, la sainteté descende aux choses du monde profane et de la culture, travaille à transformer le régime terrestre de l'humanité, fasse œuvre sociale et politique. Oui, dit Maritain, à condition qu'elle reste sainteté et ne se perde pas en route. Là est tout le problème. Il y a pour la communauté chrétienne, à une époque comme la nôtre, 2 périls inverses. Le péril de ne chercher la sainteté qu'au désert, et le péril d'oublier la nécessité du désert pour la sainteté. Le péril de resserrer uniquement dans le cloître de la vie intérieure et des vertus privées l'héroïsme qu'elle doit dispenser au monde, et le péril de concevoir cet héroïsme quand il déborde sur la vie sociale et s'applique à la transformer à la façon de ses adversaires matérialistes et sur un type tout extérieur, ce qui est le pervertir et le dissiper. Je trouve que ces lignes sont éclairantes pour notre temps, 90 années après. Qu'en est-il de la mission ? On parle souvent de mission, on fait des trains apostoliques, on va dans telle région, telle ville, pour une conversion. Oui, quels sont nos outils d'apôtres missionnaires ? Je pense que la première chose, c'est de ne pas oublier le cloître intérieur, c'est-à-dire la cellule intérieure, c'est-à-dire la vie d'horizon. L'héroïsme chrétien, poursuit Maritain, n'a pas les mêmes sources que les autres. Il procède du cœur d'un Dieu flagellé et tourné en dérision, crucifié hors des portes de la ville. Il est temps pour lui de mettre de nouveau, comme jadis dans les siècles médiévaux, la main aux choses de la cité terrestre, mais en sachant bien que sa force et sa grandeur sont d'ailleurs et d'un autre ordre. Ainsi, une rénovation sociale, vitalement chrétienne, sera œuvre de sainteté ou elle ne sera pas. Je dis d'une sainteté tournée vers le temporel, le séculier, le profane. Le monde n'a-t-il pas connu des chefs de peuples saints ? Si une nouvelle chrétienté surgit dans l'histoire, elle sera l'œuvre d'une telle sainteté. Je voudrais vous faire remarquer l'expression de cette fin de paragraphe, une rénovation sociale vitalement chrétienne. Les 4 mots sont importants. Rénovation a remplacé révolution. Qu'est-ce que c'est que rénovation ? C'est refaire du nouveau, refaire du neuf. C'est une réécriture du vin dans les huîtres, dans les outres, pardon. On met pas du vin nouveau dans des outres vieilles, anciennes. Il faut des outres neuves. Sociale. Rénovation sociale, c'est l'attention que Maritain a toujours portée aux pauvres, aux délaissés. N'oubliez pas qu'il a séché les cours de Henri IV, le lycée parisien où il était avec Ernest Psychary, pour aller militer en faveur de Dreyfus. Donc on a quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la justice sociale. Vitalement. Vitalement, je pourrais dire, c'est l'adverbe préféré de Maritain, comme l'adjectif vital, parce qu'il est organique. On peut penser au vitalisme, hein, c'est une école de biologie, Montpellier-Rennes, avec Barthès et compagnie. On en a des échos dans Diderot, dans Jacques le Fataliste notamment. Vitalement va s'opposer à mécaniquement. La mécanique, c'est le modèle cartésien. C'est le modèle des automates, des hommes-machines. Et vitalement, c'est un modèle biologique qui n'est pas la mécanique, donc qui n'est pas le modèle physique, et qui permet une organicité. Et donc, rénovation sociale vitalement chrétienne, c'est le dernier adjectif qui est le plus important, parce que c'est de l'intérieur que le christianisme se diffuse, se répand et innerve en quelque sorte tout ce qu'il contamine, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il transfigure. Comment concevoir cette sainteté à l'œuvre dans le tissu social ? Tout simplement en s'appuyant sur une vision, on va dire, de philosophie réaliste, héritée d'Aristote. C'est la notion, finalement, de bien, de vertu, qui est ici reprise dans un univers chrétien. Donc, il y a une dépendance du politique, du social et du moral. Et comme le moral est lui-même connecté, je veux bien utiliser des mots modernes, connecté ou dépendant ou organiquement conjoint au spirituel, c'est-à-dire à la mystique, vous comprenez tout de suite qu'il y a comme une géographie, une réticulation, un véritable filet de ces quatre notions, mystique, morale, sociale, politique. Dans l'ordre social-temporel, écrit Maritain, cette fois-ci, dans un ouvrage qui précède Humanisme intégral, il s'agit du régime temporel et de la liberté, 1933. Il doit être demandé de faire œuvre avant tout spirituelle et de combattre avec les armes de l'héroïsme chrétien, de la sainteté. Ne s'étonneront de cet apparent paradoxe que ceux qui méconnaissent la dépendance intrinsèque et essentielle du politique et du social à l'égard du moral, du temporel à l'égard du spirituel, et qui n'ont pas encore compris que les maux dont les choses humaines souffrent aujourd'hui sont incurables si les choses divines ne sont pas portées dans les profondeurs de l'humain lui-même, du séculier, du profane. Je trouve qu'il faut relire cette phrase. Et qui n'ont pas encore compris que les maux dont les choses humaines souffrent aujourd'hui sont incurables. On ne peut pas les soigner si les choses divines ne sont pas portées dans les profondeurs de l'humain lui-même, du séculier, du profane. Vraiment cette idée qu'on a vue dans le premier épisode d'un christianisme décoratif qui s'oppose à un christianisme ontologique, existentiel, profond, et celle qui supervise, on va dire, la décennie 1930-1940, chez Maritain. Dieu a jadis suscité des saints pour être chef militaire ou chef de peuple, empereur ou roi. Pourquoi n'en pourrait-il plus susciter qu'il soit chef politique dans les conditions du temps présent ou du temps futur ? Nous avons dit que normalement, c'est par sa pureté avant tout qu'un effort de renouvellement ou de révolution est efficace et qu'il a chance de réussir dans l'histoire. Mais comment est-ce possible, dans le cas d'un effort de rénovation temporelle chrétienne, dont la pureté est par définition une pureté chrétienne, une pureté évangélique, une pureté de charité, ennemie de la pureté de violence, de fanatisme ou de haine, par quoi les révolutions réussissent. La pureté des révolutions humaines s'accommode de bien des souillures morales. La pureté d'une rénovation temporelle chrétienne n'admet que des moyens eux-mêmes purs. Donc ici, importance de quoi ? Cette organicité dont j'ai parlé, qui unit par exemple les quatre domaines, mystique, spirituel, moral, social et politique, eh bien, elle oblige à ne pas séparer les moyens et la fin. On ne peut pas dire la fin justifie les moyens. Non. C'est pas une révolution qui est le but. C'est la manière dont on fait cette rénovation, et j'insiste sur ce doublé. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. C'est le moyen lui-même qui doit être pur, qui doit correspondre à l'Évangile. C'est à la manière de faire. C'est à la manière dont vous avez donné un verre, dont vous allez visiter le prisonnier, dont vous avez fait ceci, qu'ont fait les derniers chapitres de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais nous serons à gauche, vous serez à droite. Mais ne t'avons-nous pas donné à boire, à manger ? Quand ? C'est la manière. Dès lors, poursuit Maritain, et par hypothèse, elle voue à l'échec la tentative qui suit sa loi. Il se pourrait que cette question n'appelle pas d'autre réponse qu'un mot de l'Évangile. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Une révolution chrétienne ne peut réussir que par des moyens dont précisément les autres ne seraient pas capables, puisque ce sont des moyens qui sont chrétiens et qui ne sont pas temporels. Ce sont des moyens théologaux, foi, espérance, charité. Donc ici, à nous, chrétiens, de chercher des moyens qui ne seraient pas ceux des autres, sous-entendu non chrétiens. Si la foi déplace les montagnes, est-elle impuissante à déplacer les sièges des forts? Si des chrétiens, hommes de foi dans leur vie privée, commencent dès qu'il s'agit des choses de la vie sociale et politique par ne pas croire, il leur reste d'être des esclaves traînés à la remorque de l'histoire. Maritain n'y va pas par quatre chemins. La foi n'est pas qu'une foi en Dieu, trine, tous les articles du credo. Pas du tout. C'est aussi une foi dans les moyens chrétiens d'exercice de la foi dans le temporel, de cette rénovation du social par le christianisme. Et cette foi a été la sienne. Je pense que Paul VI a eu un mot juste en disant à la mort de Maritain qu'il était un maître pour notre temps. C'est un maître à penser, c'est un maître à exister. À penser par ses écrits, à exister par son témoignage. C'est quelqu'un qui est toujours disponible. On a des témoignages dans les lettres. Un jeune adolescent, alors qu'il est à Meudon, il croule sous le travail, vient le voir. Il est 18h, il parle de Dieu. Et le Maritain sent bien que ce garçon a soif. Eh bien, il lui propose d'aller au cinéma. Capable donc de remettre son travail ou de prendre son sommeil pour le faire plus tard dans la nuit. Et de rester avec ce jeune, avec une activité qui lui plaît. Les correspondances, 42 000 lettres, on a de quoi faire, on a de quoi lire, déposées à la BNU à Strasbourg, sont émaillées de ce genre de témoignages. Donc on a quelqu'un qui a cru à la brebis perdue, aux petits détails. Il ne pense pas l'homme, l'humanité avec un grand H. Il la vit au quotidien, 1 + 1 + 1. S'il la pense avec un grand H en tant que philosophe, c'est pour élever l'humanité au-delà d'elle-même, selon la définition d'Aristote qui dit que l'homme est fait pour s'élever au-delà de lui-même. La question que pose Maritain, toujours dans ce livre de 1933 du régime temporel et de la liberté, l'esprit est-il donc condamné par hypothèse à la faiblesse dans les choses du temps? Ses énergies n'ont-elles d'influence sur les choses terrestres que par répercussion de l'éternel sur le temps? Au sein même de l'ordre temporel, social, politique et de ses conflits, sont-elles vouées à l'impuissance et au perpétuel échec? C'est là une pensée manichéenne et non chrétienne, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit absente de la philosophie de l'histoire pratiquée par le monde chrétien. C'est tout autre chose de savoir que les choses du temps sont soumises à la corruption et qu'une loi naturelle et surnaturelle rend fécond sur un plan supérieur les échecs dans le temps et d'abandonner le temps et le monde au diable. Le chrétien sait que, constamment contrarié et constamment masqué, le travail de l'esprit gagne malgré tout dans le temps et qu'ainsi, de chute en chute, mais de gain obscur en gain obscur, le temps marche vers la résurrection, l'histoire du monde marche vers la Jérusalem éternel. Donc ici, il y a la sortie de la pensée manichéenne, c'est-à-dire une pensée binaire où les deux principes du mal et du bien sont égaux. L'opposition, c'est la pensée chrétienne, où le mal est une privation du bien. Donc il n'y a pas une égalité. Il y a une inégalité, une asymétrie, si vous voulez. Le bien n'est pas symétrique du mal. C'est pas la main gauche et la main droite symétrique, non. Le mal est une privation du bien, et donc l'espérance chrétienne, c'est tout simplement de croire. De croire, eh bien, les deux piliers du christianisme, le temps marche vers la résurrection et l'histoire du monde vers la Jérusalem céleste. Thank you. concrètement, que faut-il faire? Maritain est toujours concret. Il n'aime pas le mot pragmatique, mais concret. Concret, pas trop non plus. Il préfère encore réaliste. Eh bien, servir. Voilà, la réponse, c'est servir, non pas dominer, mais servir. Et c'est dans les principes d'une politique humaniste. Alors, c'est un ouvrage un peu plus tardif, écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, que je trouve cette page en réponse à la problématique qui est la nôtre. Comment passer à la sanctification du profane? Maritain propose ainsi cette réponse. Le monde lui-même adresse aux hommes une assez terrible sommation. Et c'est aux croyants que cette mise en demeure est adressée d'abord. L'avenir ne sera bon ni pour le monde, ni pour la religion, si les croyants ne comprennent pas ce qui est d'abord et avant tout exigé d'eux. Si eux-mêmes, qui portent les livrets de l'esprit, ils laissaient subjuguer leur âme par les forces de dissolution qui opposent désespérément le mal au mal, et s'ils enrôlaient la religion, fût-ce au nom des intérêts, comme on dit, de celle-ci, dans une œuvre quelconque de domination et de violence, je pense que le dégât pour la civilisation serait irréparable. Ce qu'il aurait demandé d'abord et avant tout, même dans la lutte temporelle avec les moyens durs qu'elle comporte, ce n'est pas de dominer, c'est de servir. C'est de maintenir parmi les hommes l'espoir en la bonne volonté, en l'esprit de coopération, en la justice, la bonté, la pitié pour les faibles et les déshérités, la dignité humaine et la force de la vérité. Ces grands mots que je viens de prononcer, il ne suffit pas de les invoquer. Il faudrait les incarner dans la vie. Si on dit la vérité sans la faire, et Maritain souligne, on risque de porter les hommes à la regarder comme une imposture. On l'a beaucoup répété ces derniers temps et avec raison. C'est dans l'existence sociale et temporelle elle-même, dans le dur labeur des hommes, que les croyants sont appelés à confesser leur Dieu. Beaucoup de choses qu'ils acceptent aujourd'hui, dans la condition terrestre de leurs frères et dans le régime des sociétés humaines, paraîtront plus tard aussi peu dignes d'être acceptées que nous le semble à présent l'esclavage antique. La tragédie du chômage, la tragédie des réfugiés et des émigrants, la tragédie de la guerre, sont le signe d'un désordre grave auquel nous devons travailler sans repos à remédier. Il écrit ces lignes en 1944, donc réfugiés, émigrants, chômage, guerre. On a l'impression que ce sont des événements, des données de notre monde contre lesquels un individu ne peut rien. Et nous les prenons comme faisant partie du décor avec un certain fatalisme. Ben oui, c'est ainsi, on n'y peut rien. Qui puis-je, moi? Je peux balayer devant ma porte, mais que puis-je faire? Eh bien, Maritain renverse la vapeur. Par quoi? Ben, par cette vision du service. N'oubliez pas, Jean 13, le Christ sert, il lave les pieds. Il se ceint d'un linge et il lave les pieds de ses apôtres. Ce service qui, chez saint Jean, remplace l'institution de l'Eucharistie est fort. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une mystique du service. Et ce service, qui est une action, ne peut être fécond que s'il vient, toujours pareil, d'une surabondance de contemplation. On ne met pas le torchon autour de ses reins pour aller laver les pieds en décidant. Ce n'est pas un acte de volonté pure. C'est un acte intérieur qui est plutôt la réponse à un appel, et donc il faut écouter pour qu'il y ait une fécondité dans le service. C'est ainsi que Maritain conçoit le service, et dans ses pages de 1944, extraites de principes d'une politique humaniste.